mes chers compatriotes, à partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que nous venons de traverser.
On a en quelque sorte remporté une première manche, et ça, il faut capitaliser dessus.
Le 16 mars, nous avons fait le choix humaniste de placer la santé au-dessus de l'économie.
Il est très probable que nous ayons, collectivement, par le respect du confinement, sauvé des dizaines de milliers de vies.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, depuis le 17 mars dernier, notre pays vit confiné. Et de toute évidence, il ne peut l'être durablement. Car si le confinement a constitué une étape nécessaire, il pourrait, s'il durait trop longtemps, entraîner des effets délétères.
Ce sont 11 300 000 salariés dans notre pays qui sont protégés par le chômage partiel. Je dirais qu'on a mis à l'abri des Français quand le vent soufflait fort.
Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail. Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France.
Il a vraiment pas dit grand chose. Enfin, je suis quand même fasciné, c'est vrai, par ce type de communication politique où il ne répond à aucune question. Et nous, tout le pays est sommé de venir à 20h devant la télé pour entendre rien du tout.
Bonjour Myriam Revaud-Allonne.
Bonjour Caroline.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe du politique, chercheuse associée au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, professeur émérite des universités à l'École pratique des hautes études. On vous doit un certain nombre de livres sur le fait politique. Le dernier date de l'année dernière. Il s'intitule « La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun ». On l'entendait à l'instant. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé dimanche soir à la télévision lors d'une allocution de 20 minutes devant 24 000 de Français pour clore une séquence entamée il y a 3 mois avec une prise de parole solennelle qui annonçait la mise en place du confinement il y a 3 mois. Comment le président a-t-il géré médiatiquement cette période? Comment les médias ont-ils relayé la parole gouvernementale? Est-ce que nous avons assisté à une communication de crise ou à un virage du macronisme? Ce sont autant de questions que nous aimerions vous poser ce matin, Myriam Revaud-Allonne. Alors, vous avez entendu ces quelques extraits. Qu'est-ce que la philosophe du politique a pensé du discours de dimanche? Est-ce que vous êtes comme Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, c'était un discours pour rien, rejoint, on l'entendait à l'instant, par l'économiste de gauche Thomas Piketty qui a regretté que le président n'ait vraiment pas dit grand-chose. Vous êtes quand même plus indulgente.
Non, je ne suis guère plus indulgente, même si mes motivations à l'écoute ne sont pas celles de Bruno Retailleau. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que ce discours qui clôture effectivement au moins provisoirement cette sortie de confinement, c'est la suite d'un certain nombre d'autres discours qui l'ont précédé et qui sont quand même marqués par chacun par une très grande hétérogénéité. Et c'est ça qui est très très frappant, parce que le premier grand discours, disons, de crise, de communication de crise, ça a été le discours où il a dit « nous sommes en guerre hein. ». Nous sommes en guerre, un discours de mobilisation de la nation, qui était un appel à l'unité. Alors là, moi j'ai trouvé que cet appel, cette rhétorique de la guerre était tout à fait à côté de la plaque, même si effectivement il y avait une urgence de la situation, parce que elle était un appel à la mobilisation, à l'unité de la nation, au-delà de tous les clivages, de tous les conflits, de toutes les divisions qui marquent la vie d'une société. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un appel à l'unité, à une unité qui est une unité factice. Puis alors ensuite, il y a eu un discours, un ou deux discours, alors qui ont semblé, comme vous l'avez dit, marquer un tournant, où le président a dit « il faut maintenant, la situation est tellement grave que nous devons véritablement interroger notre modèle de développement, interroger notre modèle de société ». Et là, il y a eu des formules extrêmement frappantes où il était question d'un bien commun ou de bien commun qui dépassait l'ordre du marché, qui échappait à l'ordre du marché. Alors là, tout le monde s'est demandé s'il n'allait pas y avoir un très grand virage politique du macronisme. La phrase, notamment, ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Et puis, il y a eu un troisième discours dans lequel il a été fait référence à la Déclaration des droits de l'homme. c'est-à-dire au fait que les différences sociales ne se justifient que par rapport aux services rendus à l'intérêt commun. Donc là aussi, c'était un bouleversement par rapport à tous à la célèbre formule qui a été si discutée sur les premiers de cordée. Et puis voilà, le dernier discours qui vient clore toute cette séquence est effectivement un discours où il n'y a pas grand-chose et où toute la rhétorique qui manifestait apparemment, s'est posé la question, une volonté de changement a disparu. Parce que par exemple, il parle là du plaisir d'être ensemble, alors que dans un discours précédent, il avait fait référence aux jours heureux. Et évidemment, un certain nombre d'entre nous ont compris ou ont pensé immédiatement à la référence au Conseil national de la Résistance, aux jours heureux, et qui ne désignait pas simplement le plaisir de se retrouver, d'être ensemble, d'une manière assez banale. Et dans ce dernier discours, d'ailleurs, le président Macron a évoqué la nécessité de recommencer à travailler plus. Bon. Donc,
Ça, c'est pour les questions de fond, Myriam Revaud-Allonne. On peut aussi s'interroger sur la forme qu'ont pris ces discours, allocutions solennelles face aux Français à la télévision, sans journaliste, donc sans contradicteur. Est-ce que ce type de communication, c'est-à-dire la façon dont elle est organisée, dit quelque chose de la manière dont un chef, en l'occurrence un chef d'État, conçoit son pouvoir ?
Absolument, parce que moi je pense que, si vous voulez, d'abord, le fait de parler de communication de crise est tout à fait révélateur. Un chef, c'est pas seulement, alors je sais bien que dans l'acception la plus courante, le chef c'est celui qui commande, et c'est celui qui a un exercice vertical du pouvoir. Mais vous savez, étymologiquement parlant, le chef, ça vient du latin ou du grec, c'est la tête. Et c'est aussi bien celui qui commence que celui qui commande. Donc on pourrait avoir une autre conception du chef. On pourrait penser que le chef, c'est celui qui, au fond, prend une initiative ou qui commence quelque chose et auquel les autres se rallient, auquel les autres se joignent. Ce qui suppose une dimension beaucoup plus horizontale que celle qui consiste à délivrer des messages ou des injonctions ou faire des discours solennels. D'ailleurs, c'est pas par hasard. Si on appelle ces discours des discours de communication et si on parle de communication de crise, moi je me pose la question de savoir si le discours politique doit nécessairement être un discours de communication. Alors je sais bien qu'on parle maintenant sans arrêt de communication, parce que la politique aussi est envahie par la communication. Mais un discours politique, ça peut être un discours d'échange, ça peut être un discours pédagogique, ça peut être un discours qui explique. Alors on pense évidemment au grand discours de Churchill au moment de la bataille d'Angleterre, mais on pense aussi à la façon dont Mendès France développait ses causeries du samedi matin en explicitant en essayant d'expliquer aux Français les mesures qu'il allait prendre ou qu'il avait l'intention de prendre, et en donnant des véritables explications sur les raisons de son action. Donc c'est pas du tout ce genre de discours auquel on assiste maintenant, et en particulier dans le cas du président Macron, on voit très bien que, au fond, la première personne vient au premier plan. C'est pas non plus, ce n'est pas du tout dans le registre de la célèbre formule d'Obama au moment de la campagne électorale, yes, we can.
Pour qu'il y ait communication.
Yes, I can.
Oui. Pour qu'il y ait communication, Myriam Revaud-Allonne, encore faut-il qu'il y ait un relais de cette communication. Comment avez-vous regardé la façon dont les médias ont relayé cette communication ou informé la population? Thomas Piketty, qu'on entendait tout à l'heure, disait lundi matin, les télévisions ne devraient pas accepter ce type de dispositif. Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que vous avez regardé, vous, les médias pendant 3 mois, du point de vue du politique, qui est le sujet qui vous intéresse, avec un œil cette fois plus indulgent?
Pas du tout. Non, j'ai pas regardé ça avec un œil plus indulgent. D'abord, moi, j'ai fait quand même une différence entre la presse écrite qui évidemment ouvre la radio, et puis les télévisions et surtout les chaînes de télévision en continu, qui au fond se focalisent sur l'événement immédiat. Et qui, parce qu'il n'y a pas eu simplement la communication gouvernementale, il y a eu la discussion absolument interminable entre les experts ou médicaux au moment où on ne savait absolument rien. Et là, il y a eu aussi, là je déborde un petit peu le sujet, la communication gouvernementale, mais c'est quand même un petit peu un corrélat. C'est-à-dire que ce qui a été absolument catastrophique, c'est au lieu de faire comprendre aux gens que la science, elle progresse, que d'abord que, comment dire, elle a été elle aussi dans l'incertitude, qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne sait toujours pas, qu'elle a progressé dans la contradiction, dans le débat, dans la discussion, on a eu l'impression d'une communication qui, au fond, dont le résultat était de délégitimer. Les positions scientifiques, tout comme elle en arrivait à délégitimer en général le savoir des élites. Et donc, c'est vrai qu'on a vu des émissions de télévision qui, pendant des heures, commentaient les moindres nuances, les moindres propos d'un discours présidentiel en s'attachant à des détails totalement insignifiants. Alors, je veux dire que c'est très difficile dans ces conditions d'essayer de décrypter les arrière-plans, mais moi, en tant que philosophe et en tant que quelqu'un qui réfléchit sur la politique, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler quand même dans un temps plus long et non pas, en étant envahi par ce type d'intervention.
Ce que vous écriviez dans un entretien au Monde en décembre, Myriam Revaud-Allonnes, c'était la contestation massive de la réforme des retraites a effectivement pour arrière-fond une crise historique et politique aujourd'hui portée à son paroxysme. C'était sans compter l'épidémie que nous avons connue en janvier, dès le mois de janvier, puis qui s'est accentuée dès le mois de mars. Ça fait des années que vous travaillez sur ce concept de crise, puisqu'en 2012, vous aviez même écrit un livre qui s'intitule « La crise sans fin ». Est-ce que ce que nous traversons vient confirmer ou infirmer vos thèses ?
Écoutez, d'une certaine façon, je ne crois pas qu'un événement comme celui-là, qui précisément fait irruption dans nos vies de telle manière qu'il fait intervenir des choses absolument nouvelles, je ne pense pas qu'il infirme ou qu'il confirme des thèses préétablies. C'est-à-dire que moi, ce que j'écrivais essentiellement sur la crise, c'est que la crise est une rupture qui, nous déboussole complètement, qui, d'une certaine façon, a pour effet de rompre non seulement avec ce dont nous avons l'habitude, mais qui nous incite à de nouvelles manières de penser. Donc, même si j'ai retrouvé dans la crise de la pandémie des éléments fondamentaux de ce que j'avais pu écrire sur les effets de la crise, sur la rupture fondamentale que provoque l'événement, j'ai pour principe de ne pas trouver dans l'événement quelque chose qui conforte déjà mes thèses préétablies, puisque précisément, l'événement, c'est ce qui fait rupture et c'est ce qui vient changer nos manières de penser.
À suivre donc cette histoire de crise et de rupture, puisqu'effectivement nous sommes en train de changer nos manières de penser. Nous vous réinviterons pour parler plus largement de ce concept de crise. Myriam Revaud-Allonnes, un grand merci à vous d'avoir participé à cette fabrique médiatique ce matin et bon week-end.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.